Bonjour à tous. À 5 jours des élections de mi-mandat, journée spéciale sur France Culture. Comment Trump réinvente-t-il le monde et dans quel monde vivons-nous? Invité de votre grande table des idées, un spécialiste des relations internationales, un regard singulier, celui de Bertrand Badi, notre invité à partir de 12h55 à l'occasion de la parution de son « Quand le Sud réinvente le monde », un essai sur la puissance de la faiblesse qui paraît à la découverte. Pour commencer, le pèlerinage littéraire d'une icône du rock. Après Just Kids, Glaneur de rêve et M-Train, Patti Smith revient avec un essai littéraire, Dévotion chez Gallimard. D'où vient l'inspiration? Sur quelles traces ou les traces de qui marche-t-elle? Jusqu'à 12h30, rencontre avec la chanteuse et poétesse américaine, marraine de toute une génération. En 88, dans la veine des protest songs, elle chantait People Have the Power. À 5 jours des midterms, est-ce qu'elle y croit encore? Aux États-Unis, quel est le pouvoir des gens et la responsabilité des artistes? Patti Smith dans la grande table.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Patti Smith.
Hello.
Bonjour. Bonjour à votre voix française, Marguerite Capel. Au début du livre, vous êtes de passage à Paris et vous écrivez « Une écrivain qui n'écrit pas va parler écriture avec des journalistes ». C'est aussi ce qui est en train de vous arriver?
No, because I'm writing. I've been writing. I've been very prolific lately. I was being humorous.
Non, car en fait, en ce moment, j'écris. J'ai été plutôt prolifique dernièrement, mais dans ce livre, je faisais de l'humour en fait, parce que j'étais à ce moment-là, je rencontrais un point de blocage dans mon écriture, donc c'était ma manière d'essayer de faire de l'humour.
Attempted humor.
Vous veniez d'atterrir à Paris. Vous aviez dû prendre un vol très rapidement, et il a fallu saisir au vol quelques livres dans votre bibliothèque et vous raconter combien il aurait été douloureux pour vous de partir sans livres. C'est comme une sécurité dans votre vie, les livres, comme une béquille. Cette fois-ci, avec quoi êtes-vous parti?
Because I'm writing so much right now, I didn't take too many books. I actually took one small book.
En fait, comme j'écris beaucoup en ce moment, je n'ai pas pris trop de livres. J'ai juste pris un petit livre de méditation de Samuel Beckett. C'est un livre qu'il a écrit en français et qui a été traduit en anglais.
But I was also reading Samuel Beckett because my dear friend Sam Shepard loves Samuel Beckett.
Je le lis aussi parce que c'est un très cher ami à moi, Sam Shepard, qui aime beaucoup cet auteur et qui m'a donné ce petit livre. Donc je lis l'auteur qu'il aime.
Des mots et des images, c'est exactement sur ça que s'ouvre aussi ce livre, Dévotion. Patti Smith, vous avez plus de 40 ans de scène et plus encore d'écriture, plus de 40 ans d'écriture, puisque votre premier recueil de poésie, Seventh Heaven, est paru en 72, avant même votre premier album Horses. Entre l'écriture et la musique, laquelle de ces deux formes d'expression a pris le pas sur l'autre en vous?
Well, I've always written.
En fait, j'ai toujours écrit et je me considère plus comme écrivaine que comme musicienne. Je ne suis pas vraiment musicienne, je chante, mais il n'y a aucun instrument dont je joue réellement bien. En fait, je me considère plus comme une sorte de performeuse sur scène. Et la discipline la plus importante à mes yeux, celle à laquelle je me suis le plus tenue, c'est vraiment l'écriture. Depuis que j'étais toute petite, j'ai voulu et j'ai souhaité écrire.
There's a difference. Writing songs, you're writing more for the public, for the people, and they're always on.
Il y a une vraie différence aussi dans la façon dont on écrit. Quand j'écris des chansons, j'ai toujours le public en tête, les personnes qui vont l'entendre, alors que quand j'écris seule, je ne pense à personne et je m'immerge vraiment dans le monde du manuscrit. Donc ce sont des responsabilités différentes.
Vous racontez en regardant Ristles, La Croisée des Vents, comment la voix de l'héroïne a pu vous porter et rapprocher d'ailleurs l'écriture de la composition, composer des phrases comme de la musique. Est-ce que quand vous écrivez, vous êtes aussi porté par la musicalité des mots?
That's an interesting question. It was unusual in Devotion that I would want to write something based on the sound of a person's voice.
C'est une question intéressante. En fait, c'est inhabituel pour moi, avec ce livre Dévotion, d'avoir voulu écrire à partir du son de la voix d'une personne. J'ai été complètement captivée par la musique de cette langue estonienne, cette musique russe, en fait, cette musicalité très particulière de la langue russe, qui fait que j'ai toujours cherché à écrire avec ce tempo-là.
I'm very word-based, language-based. But sometimes I will listen to music
Mais c'est un exemple assez unique parce que je me fonde davantage sur les mots que sur la musique quand j'écris. J'écoute parfois de la musique quand j'écris, mais plutôt de la musique sans parole. Ça peut être la bande-son, par exemple, la bande originale de Ghost in the Shell ou du Philip Glass ou du Bach. Mais je ne recherche pas, je n'ai pas envie d'avoir une voix humaine, en fait, quand j'écris. Ça a été un cas unique parce que cette fille avait cette voix, cette sonorité très particulière qui m'a complètement fascinée.
Potion est un livre autobiographique sur le processus littéraire, sur l'acte d'écrire, Patti Smith, sur l'inspiration aussi que vous définissez comme cette quantité imprévue, cette muse qui vous assaille au cœur de la nuit, cette flèche qui vole et on n'est pas toujours conscient d'avoir été touché, écrivez-vous, on ignore qu'une multitude de catalyseurs, étrangers les uns aux autres, nous ont clandestinement rejoints pour former un système à part, nous inoculant les vibrations d'un mal incurable, une imagination brûlante à la fois impie et divine. On parlait de la voix, de ces voix qui vous ont guidé au début de ce livre, exceptionnellement. Est-ce que vous, à force d'écrire, vous avez trouvé votre voix d'écrivain?
Well, it depends on... I mean, in each book we do, or each work that one does, the most important thing is to find the voice of... You have the title and you have the voice, even if you're speaking in first person.
Ça dépend en fait. Dans chaque livre, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de trouver une voix, un titre, une voix. Même d'ailleurs, quand on écrit à la première personne pour Dévotion, il y a plusieurs voix. La voix qui ouvre le livre, c'est principalement la mienne, la voix que j'ai seule à Paris. Et puis ensuite, dans le texte de fiction, j'ai dû chercher en moi et dans la stratosphère les voix de l'entraîneuse, les voix de son mentor et les voix de la jeune héroïne.
Trainer of her mentor of herself, and but that's part of the joy of writing. It's not really a struggle.
Mais ça fait partie pour moi de la joie du processus d'écriture. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile, qui est un combat. Il faut écouter, pas forcément le son des voix, mais la façon dont les mots qu'on écrit vont envahir le silence.
But also,
mais par exemple, au moment où j'ai visité la maison de Camus à la fin du livre, ça a été encore un autre jeu de voix qui est venu, qu'il a fallu écouter, qui était presque des voix de fantômes, en quelque sorte la voix du fantôme de Camus et la voix aussi du fantôme de sa fille plus jeune.
That was another interesting set of voices to listen to. But if you're writing and you have an unauthentic voice,
et donc c'était un autre jeu de voix intéressant à explorer. Mais quand on écrit, si la voix qu'on écrit n'est pas authentique, ça se verra. En fait, c'est quelque chose qui saute réellement aux yeux quand la voix n'est pas naturelle, aussi bien pour le personnage que pour vous.
À propos de fantômes, vous croisez lors de votre séjour à Paris les fantômes, ceux d'écrivains qui vous sont chers, évidemment Modiano, mais aussi Saint-Exupéry, Goethe, Genet, Joyce, Camus, Nabokov. Vous évoquiez votre visite dans la maison de Camus à Lourmarin, où vous prenez entre vos mains le manuscrit du premier homme que sa fille vous tend. Et vous parlez de cette rencontre avec ce manuscrit comme d'un appel, un acte d'appel à écrire. Est-ce qu'on peut trouver, Patti Smith, l'inspiration dans l'ombre d'autres écrivains ou dans les pas des autres? Cette présence n'est pas trop impressionnante?
Non, I mean I don't. I think of them as my friends or possibly great teachers from afar, and I don't have any expectations. I don't know. It's not hubris even. It's just
Non, en fait, parce que je les considère plutôt comme mes amis, ces auteurs, ou peut-être comme des maîtres, en quelque sorte, qui m'enseignent à distance leur art. Je n'ai pas énormément d'inquiétude par rapport à ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement que j'aime ce que je fais, j'aime écrire, et donc peu importe si les auteurs qui m'inspirent sont extrêmement estimés ou considérés comme extrêmement importants, ça n'enlève rien à mon plaisir d'écriture, en fait. Donc plutôt que d'avoir peur ou de me sentir intimidée, je préfère me laisser inspirer jusqu'à avoir envie de leur tourner le dos, parce qu'au final, on ne peut pas être étudiant, élève toute sa vie. À un moment, il faut aller au-delà des écrivains qu'on admire. C'est en tout cas l'espoir qu'on peut avoir, c'est ce à quoi on aspire tous. Et si on aime l'œuvre de quelqu'un, notre aspiration n'est pas de faire aussi bien que lui, simplement, mais de faire mieux. Et même si on n'y parvient pas, cette aspiration nous restera toujours.
Quand j'étais en train d'écrire Devotion, j'étais censée écrire
quand j'écrivais Dévotion, en fait, à la base, je devais écrire un essai pour Yale, qui m'avait demandé un essai de forme longue sur les raisons pour lesquelles j'écrivais. Et en fait, je ne suis pas très douée pour les essais, et donc j'étais en train de réfléchir à la structure que je pouvais donner au livre, et je suis tombée sur un petit livre de Marguerite Duras sur l'écriture, et en lisant ce livre, j'avais vraiment l'impression d'entendre sa voix qui me disait « Mais viens, mais entre dans ma maison, viens chez moi ». Elle parle d'une maison où elle aimait écrire dans ce livre, et j'ai eu vraiment l'impression qu'avec ce livre, elle m'offrait un modèle, une façon de déconstruire en fait la structure qui était attendue d'un essai. J'ai eu l'impression d'être accueillie. Et j'ai eu le sentiment d'avoir une approche différente en fait possible avec ce livre, et à partir de là, Dévotion a pris une forme complètement différente. Et c'est encore une fois une illustration de la manière dont il ne faut pas avoir peur des grands écrivains, des grands auteurs. Il faut simplement les laisser vous prendre la main, parce que vous pouvez apprendre des tas de choses d'eux, et puis si vous osez, peut-être que vous pouvez même réussir à les surpasser.
Dans M-Train, votre précédent livre, vous interrogez déjà cet acte d'écrire, Patti Smith, et dans Dévotion, vous poursuivez aussi ce pèlerinage littéraire que vous aviez entamé des tombes au lieu de vie des écrivains. Vous vous rendez sur la tombe de Simone Veil dans Dévotion, sur la tombe aussi de Camus, mais aussi dans les rues de Modiano, dans les jardins de Gallimard. Vous avez récemment racheté la maison de Rimbaud, je crois, à Roche, dans les Ardennes. Est-ce à dire pour vous, Patti Smith, qu'il y a un génie des lieux?
Well, that's an interesting question. For me, it's proximity.
C'est une question intéressante. Pour moi, en fait, la proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Être proche des gens que j'aime, ça peut être avec ma propre famille. En fait, c'est plus quelque chose de sentimental chez moi que d'intellectuel.
You know, I visited Camus, the family home, and I was allowed to sleep in the room that he slept in, and
j'ai visité, par exemple, la maison de Camus. On m'a autorisé à dormir dans sa chambre, et pour moi, c'était une expérience merveilleuse. Les gens ont plein de manières de trouver de la joie dans leur vie. Pour moi, c'est vraiment ça.
When I was a young girl, all of these people, the people that I loved and the people that I studied and read, were so far away. I lived in a very rural area, very unsophisticated.
Et quand j'étais très jeune, les gens que j'aimais, les gens que j'étudiais, les gens que je lisais semblaient si loin de moi. J'étais dans cet univers extrêmement rural, pas très sophistiqué. Et qui aurait cru qu'un jour, la gamine Maigrichon du New Jersey, qui adorait Camus, allait avoir l'occasion de rencontrer sa fille et de toucher elle-même ce manuscrit? Qui aurait cru que la jeune fille qui a 16 ans adorait Rimbaud posséderait un jour l'endroit même où il a écrit une saison en enfer? C'est vraiment une des choses qui, pour moi, rendent la vie merveilleuse. Tout le monde a quelque chose qu'il aime dans la vie. Ça peut être avoir une nouvelle Alfa Romeo. Pour moi, c'est vraiment être proche des gens que j'aime. Et quand on y réfléchit bien, la plupart des gens que j'aime sont morts. Mon mari, mon frère, mon chien, mes parents, beaucoup de mes amis proches.
My parents and my good friends and so many people that I love. So
tellement de gens en fait qui étaient importants pour moi sont morts, donc où est-ce que je peux les retrouver, si ce n'est dans mes souvenirs, mais aussi dans des endroits qu'on a pu visiter ensemble. Et quand je passe un peu de temps sur la tombe de Sylvia Plath, j'ai l'impression de passer du temps avec une amie, de même que quand je vais voir la tombe de mon mari, je suis en quelque sorte une amie de ces gens morts.
J'ai toujours pensé que l'écriture était proche de la musique, mais beaucoup moins pure que celle-ci. Et j'ai toujours envié les musiciens qui me semblaient pratiquer un art supérieur au roman et les poètes qui sont plus proches des musiciens que des romanciers. J'ai commencé à écrire des poèmes dans mon enfance et c'est sans doute grâce à cela que j'ai mieux compris la réflexion que j'ai lue quelque part. C'est avec de mauvais poètes que l'on fait des prosateurs. Et puis, en ce qui concerne la musique, il s'agit souvent pour un romancier d'entraîner toutes les personnes, les paysages, les rues qu'il a pu observer dans une partition musicale où l'on retrouve les mêmes fragments mélodiques d'un livre à l'autre, mais une partition musicale qui lui semblera imparfaite. Il y aura chez le romancier le regret de n'avoir pas été un pur musicien et de n'avoir pas composé les nocturnes de Chopin.
Et Patrick Modiano ne dit pas autre chose dans son discours de réception du Nobel de littérature en 2014 quand il compare la topographie des villes à un millefeuille de souvenirs. Aujourd'hui, vous avez des souvenirs très différents. Quand vous vous baladez dans Manhattan ou dans Paris, ce sont deux villes littéraires qui vous inspirent des émotions très différentes.
Well, I've probably happier memories in Paris because New York, my city is being so destroyed by overbuilding that I don't even recognize.
En fait, j'ai sans doute plus de souvenirs heureux à Paris qu'à New York, puisque la ville de New York a été en grande partie détruite par la surconstruction, le surdéveloppement immobilier, à tel point que je ne reconnais plus certains quartiers, certaines rues dans lesquelles j'ai vécu. Tout ce qui datait de mon époque a été plus ou moins démoli avec tous ces gratte-ciels. C'est toujours une ville formidable.
I might go down to the,
mais c'est une ville qui est tellement tournée vers le commerce aujourd'hui que je ne la reconnais plus.
Think about what it was like when I was 11 with my dog.
Et donc je vais ailleurs, parfois je vais retrouver des souvenirs dans les champs du New Jersey où j'ai grandi et où je peux retrouver l'image de moi-même à 11 ans avec mon chien. Quand je viens à Paris, je peux retourner dans des rues qui ont exactement la même allure que quand je les ai visitées avec ma sœur, ou voir l'église de Saint-Germain-des-Prés qui est exactement la même, rendre visite à Nerval, à Baudelaire, à qui sont toujours exactement là, et donc retrouver en fait toutes les différentes voix, les différents souvenirs que j'ai ici, l'Olympia où j'ai chanté, le café où j'ai écrit. Donc j'ai en fait finalement beaucoup plus de nostalgie quand je voyage que quand je suis dans ma propre ville.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Au cœur de ce livre hybride, Patti Smith, entre fiction et théorie littéraire, il y a l'histoire de cette patineuse douée, prise sous son aile par un bienfaiteur miraculeux qui en fait l'abuse et dont elle finit par se venger. La vie est souvent un conte de fées noires comme celui-ci.
No, I mean, well, what a thing to say, you know, what a thing to what legacy can we give our children? Life is going to be a dark fairy tale. Life has its difficulties, of course, but I think life to be alive is beautiful. I love being alive, and I've had to.
Donc non, ce serait terrible de dire une chose pareille. Qu'est-ce qu'on laisse en héritage à ses enfants si on leur dit que la vie est un conte de fées noires? La vie est évidemment difficile parfois, mais elle est surtout magnifique. Moi, j'aime beaucoup vivre, être en vie, même si j'ai dû faire face au deuil, à la tristesse, à toutes sortes de difficultés. Pour moi, ça fait partie de la vie et l'histoire que l'on trouve dans Dévotion. C'est une histoire, tout simplement. C'est ce qu'il y a de beau dans l'art, c'est ce qu'il y a de beau dans le fait de raconter une histoire, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut.
But in art, we can proceed with abandon. And so,
Dans la vie, on doit quand même faire un minimum attention les uns aux autres, alors que quand on crée, on peut aller au bout de l'abandon. Donc j'ai envie de dire, si vous avez envie de vivre une vie terrible et d'aller jusqu'à commettre un meurtre, essayez de le faire plutôt au travers d'une histoire que dans la vie réelle. Mais en tout cas, pour moi, la vie n'a rien d'un conte de fées sombre, même si vivre aujourd'hui aux États-Unis en tant qu'Américaine, avec le climat politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, peut sembler très sombre. Je suis toujours heureuse de me réveiller chaque jour. Il n'y a rien de noir dans ma vie. En fait, ce qui relèverait peut-être du sombre vient d'ailleurs, pas de moi, mais j'ai ma propre lampe torche interne.
Justement, on va, pour finir, si vous le voulez bien, quitter la fiction pour la réalité. Les Américains s'apprêtent à voter à l'occasion des midterms. Patti Smith, face à la charge démocrate, il y a eu récemment, dit-on, un sursaut des républicains remobilisés derrière Donald Trump ces dernières semaines. Vous espérez un réveil citoyen ce week-end?
I'm always hopeful. What is the alternative? Of course I'm hopeful.
J'ai toujours de l'espoir, évidemment. Il n'y a pas d'alternative, en fait, bien sûr, que j'essaie d'avoir de l'espoir, même si, évidemment, je suis aussi suffisamment réaliste pour savoir que quand on est un activiste, quand on se bat pour un changement positif, quel que soit le sujet, il faut toujours se préparer à gagner, mais aussi à perdre. Et on a perdu beaucoup de batailles et on en perdra d'autres. Mais il faut continuer toujours à se reprendre et à se battre. Donc j'ai évidemment de l'espoir, mais je m'attends aussi potentiellement à ce que cet espoir soit déçu.
I think part of it is we need new blood, we need new people, we need stronger voices, we need our young.
Mais je crois que nous avons surtout besoin de sang neuf. Nous avons besoin de nouvelles personnes, nous avons besoin de voix plus fortes, nous avons besoin des jeunes. Et si ça ne se passe pas bien cette fois-ci, j'aurai encore deux fois plus d'espoir pour 2020.
Our fate lies in the hands of young people.
C'est dans les jeunes que j'ai foi parce que tout pour moi repose dans leurs mains. C'est eux qui vont regarder ce qu'on a fait du monde et qui vont pouvoir critiquer ce qu'on en a fait. Donc c'est vraiment en eux que je place tout mon espoir. Et en 2020, ces jeunes qui pourront voter pour la première fois, je ne prétendrai absolument pas être leur leader. C'est moi qui les suivrai. C'est eux mon grand espoir.
I will follow them.
Mon espoir, je le place dans les jeunes pour 2020.
Vous n'aviez pas caché, au tournant des années 80, votre désillusion. Vous n'aviez pas caché cette idée que l'engagement des artistes avait, selon vous, montré ses limites. Et vous le renouvelez aujourd'hui en disant, maintenant, c'est moi qui vais les suivre. C'est plus nous. Nous ne sommes plus les leaders. Et je terminerai là-dessus. Quel est, du coup, pour vous, aujourd'hui, le pouvoir des artistes, le pouvoir de la littérature?
That's wrong. I never believe that it's artist's job to change the world. The artists cannot change the world.
En fait, ce n'est pas du tout une désillusion vis-à-vis du rôle des artistes. En fait, je n'ai jamais considéré que c'était aux artistes de changer le monde.
But only the people make change. So I'm not disillusioned. It's just a fact. The people make change. If you have 100
Le rôle des artistes, c'est d'inspirer les gens, de rassembler les gens, mais ce sont les gens qui font les véritables changements. Donc ça n'a rien d'une désillusion. Vous pouvez avoir une centaine d'artistes qui prennent la rue, c'est très bien, mais en fait, ce n'est rien par rapport à 1 million de personnes dans la rue, par rapport au nombre. On a besoin de nombre, on a besoin que le monde descende dans la rue et que les gens fassent le changement dans la rue. Les artistes ont toujours servi d'inspiration.
Against the Vietnam War.
Neil Young a écrit Ohio et les gens ont marché contre la guerre du Vietnam.
Guernica inspires us, but it's the people that make change.
Guernica a inspiré les gens, mais ce sont les gens qui font véritablement le changement. Ça n'a rien d'un côté désillusionné que j'aurais. Il s'agit simplement de savoir qui a le pouvoir et ce sont les gens qui ont le pouvoir.
Unified can really do anything. They can do anything.
Parce que unis, ils peuvent absolument tout faire, rien que par le nombre qu'ils représentent. Et le gouvernement n'aime rien tant que d'inspirer la peur aux gens et de pousser les gens à oublier en fait justement le pouvoir qu'ils ont. En particulier, le gouvernement sous lequel je vis aujourd'hui, le gouvernement américain, qui est véritablement dirigé comme si on avait un roi, une espèce de personnalité narcissique qui est persuadé qu'il est le seul à pouvoir impulser un quelconque changement. Et en fait, un président président, un des gouvernants, ils ne sont pas là pour réparer, changer les choses par eux-mêmes, ils sont là pour servir les gens. Et ce sont les gens, en fait, qui savent mieux comment faire le changement.
Secret scriptures to the tabloids or the falsified, known above a whisper from the soul of gold to the belly of a boy. They drew from the vase like they drop blood, tied up to a tree like Saint Sebastian, and he turned his head, let the arrows fly through the trees, trees, ornamental leaves, and the booing cry. But it won't answer, and he fell on his knees. There's the bowl around, and the blood, blood, sacramental blood, and the boy cried wolf.
Merci Patti Smith, on a choisi pour se quitter Boy Cried Wolf.
Wow, that is actually, I wrote that myself, it's one of my favorite songs.
En fait, j'ai écrit ce texte, c'est une de mes chansons préférées. Je l'ai écrit parce que quand mon fils était petit, il se faisait harceler. Et c'est vraiment, mon fils est vraiment quelqu'un de bien, une personnalité profondément ouverte et gentille.
Et j'étais angry, not just the way, because he was harassed by a gang of kids.
Et j'étais extrêmement en colère de voir le harcèlement qu'il subissait de la part non seulement de cette bande de jeunes, mais de toutes ces forces extérieures qui étaient en train de le pousser, et je le voyais s'endurcir en fait devant mes yeux, comme les garçons sont censés le faire. Et ce que je voyais, c'est ce que je dis dans la chanson, c'est la fin de l'innocence. C'est vraiment l'innocence dont j'étais en train de faire le deuil en le voyant s'endurcir face à la force, à la réalité du monde qui se refermait sur lui.
I like this song very much. Thank you for choosing it. No one ever does, so thank you.
Donc, merci d'avoir choisi cette chanson. Personne ne le fait jamais. Merci vraiment.